Le Point G, votre émission 100% Girondins de Bordeaux avec Gold FM et girondinforever.com.
Salut à tous et merci de nous rejoindre sur goldfm.fr et girondinforever.com. C'est la grande première du Point G. C'est l'émission désormais 100% Girondins, 100% supporters que vous pouvez retrouver chaque semaine sur les deux sites goldfm.fr et girondinforever.com. Pour cette première, on vous réserve deux belles surprises. Garde notre or, la légende des Girondins de Bordeaux sera avec nous dans quelques instants. Entraîneur de renom, évidemment, sélectionneur du Nigeria. Vous allez retrouver son interview. Et puis, interview exclusive de Pablo, le défenseur central brésilien des Girondins, qui sera avec nous. Là aussi, vous allez entendre des mots de la part du Brésilien, des mots forts aussi concernant la Seleção et son avenir peut-être aux Girondins aussi. Restez bien avec nous, c'est le Point G et ça démarre tout de suite.
Analyse, débat, interview, histoire, le Point G, podcast 100% Girondins avec Julien B.
Nous sommes avec Gernot Traor dans cette première émission, le Point G. Gernot qui sera un petit peu notre porte-bonheur, notre parrain de cette première émission. Et Gernot Traor, évidemment, que vous connaissez, c'est un immense joueur des Girondins de Bordeaux, une légende en tant que joueur. Plus de 400 matchs avec les Marines des Blancs, également entraîneur. On connaît tous l'épopée en 1996 qui a mené les Girondins de Bordeaux jusqu'en finale face au Bayern Munich et notamment passage avec la qualification face au Milan AC. Et Gernot Traor est donc avec nous dans ce podcast. Bonjour Gernot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Gernot, d'être notre parrain pour cette première émission. Tout d'abord, félicitations parce qu'on va se tutoyer Gernot, on se connaît. Tu reviens de la Coupe d'Afrique des Nations il y a quelques jours avec une médaille de bronze, 3e place avec les Super Eagles. Je suppose que c'est une grosse satisfaction pour le sélectionneur que tu es.
Oui, c'était vraiment une grande joie que de remporter cette médaille de bronze. C'était une CAN difficile, longue, la première fois avec 24 équipes et il a fallu cravacher pour arriver en demi-finale déjà avec des matchs difficiles, notamment contre le Cameroun qui était champion en titre et puis l'Afrique du Sud pour finalement tomber sur l'Algérie et en petite finale sur la Tunisie. Mais tout s'est bien terminé avec cette belle victoire qui nous donne cette troisième place.
La troisième place, donc acquise face à la Tunisie d'un certain Alain Giresse, que tu as pu retrouver, ton ancien coéquipier des Girondins de Bordeaux. Petite question indiscrète, on vous a vu, vous serrez la main, vous parlez. Qu'est-ce que vous êtes dit pendant ces deux minutes, notamment, où vous vous êtes croisé avec Alain Giresse? Quels ont été vos propos? Est-ce qu'il y a eu un petit moment où vous avez pensé aux Girondins?
Oui, on s'était croisé déjà la veille de match, juste avant la conférence de presse et on avait parlé de la longue durée de cette CAN. On était ensemble avec nos joueurs depuis 7 semaines. C'était long, il y avait eu donc 6 matchs auparavant déjà, plus les 2 matchs de préparation et on allait préparer le 9e match. Et c'est vrai que c'était la première fois au mois de juin-juillet, donc assez inhabituel et Gigi et moi, on a échangé là-dessus et il trouvait ça un peu long. Moi, j'ai dit heureusement qu'on est encore là. Ça veut dire qu'on est toujours en compétition. Et voilà, donc non, on n'a pas tellement parlé des Girondins, c'était pas trop le moment. On a parlé un peu du football africain. On a eu pendant le match plusieurs fois aussi l'occasion de se dire deux mots en disant que quand il y a eu le blessé, notamment, ils ont eu 3 blessés. On se disait, ils sont tous fatigués, il faisait 32 degrés encore le soir à 22h. Et voilà, on a échangé quelques mots sympathiques. Et c'est vrai que Gigi, depuis qu'il est en Afrique, je crois que ça va faire depuis 2007 ou 2008. Moi, je suis arrivé au Gabon en 2010, il venait de partir.
Oui, tu lui as succédé.
Et ensuite, on s'était croisé encore au Gabon, puisqu'il était venu avec le Mali nous éliminer en quart de finale, tir au but, où Aubameyang, qui jouait pour le Gabon, avait raté le pénalty décisif pour finalement qu'il s'impose 5-4. Il avait été plus heureux, mais cette fois-ci, j'étais moi le plus heureux, puisqu'on a remporté la médaille et Gigi est parti en quatrième position avec une bonne équipe de la Tunisie. On avait monté les stages qui marchaient très très bien, Foot Vacances, qui sont devenus Cap Girondin lorsque Gigi nous a quittés pour Marseille. Et que Claude Best lui en voulait parce qu'il avait promis de rester. Et puis il avait trouvé que, bon, à Marseille, c'était meilleur pour lui. Nous, on a eu là-dessus la séparation de Cap Girondin avec ce dénommé Le Doubs, et c'était pas évident. Là-dessus, on avait un match à Marseille où voilà, c'était très chaud aussi, à Marseille, et puis le match retour à Bordeaux a été ce qu'il a été, match décisif pour nous puisqu'il fallait gagner pour qu'on fasse en 87 champion de France et puis aussi le doublé. C'est le seul carton rouge que j'ai eu dans ma carrière. Et voilà, donc, mais on a quand même gagné ce match 3-0. Et ensuite, on a fait même la victoire en finale de la Coupe. Pour la deuxième fois de suite, 86-87, c'était Bordeaux-Marseille en finale de la Coupe de France. Et chaque fois, on l'a remporté. 86, Gigi était avec nous, il a fait le lobe sur Joseph-Antoine Bell.
Exactement, oui.
Et en 87, voilà, Gigi avait été blessé. Il ne pouvait pas jouer la finale. Bon, bref, après toutes ces années, et aussi ce qu'il a fait en Afrique, je pense que ça a permis à Gigi d'ouvrir un peu les horizons, d'ouvrir un peu son esprit, et nous sommes redevenus ce qu'on a toujours été, des copains. On a joué ensemble pendant une dizaine d'années au Girondin de Bordeaux, et voilà, donc cette histoire qui a été beaucoup, beaucoup médiatisée, ce match Bordeaux-Marseille en 87, ça a été quelque chose qu'il fallait à un moment donné aussi oublier, et nous l'avons oublié.
Bon, ben très bien. C'est le principal. Notons quand même que Alain Giresse, en plus, vous a entraîné une année, enfin entraîné avec Kwekou. C'était votre dernière année. C'était ta dernière année à toi en tant que joueur. Et lui revenait de Marseille. C'était rabiboché avec Claude Béz. Était directeur sportif à moitié entraîneur avec Didier Kwekou.
Oui, Julien. Je sais que tu es au courant de toute l'histoire des Girondins de Bordeaux. Julien B, qui a fait ce livre magnifique sur Chaban-Delmas, sur l'Escure, sur l'histoire des Girondins. Et je sais que tu sais mieux que moi.
Non.
Moi, je la connais depuis que je suis là, depuis 77.
Bien sûr.
Ça fait quand même aussi un bon bout de temps.
Mais l'histoire, puisque tu l'as vécu, toi, Gernot.
Oui, mais tu as recherché l'histoire des Girondins avant moi, alors que mon grand-oncle Oscar Rohr a fait aussi l'histoire du football français, meilleur buteur avec Racing Club de Strasbourg en 37, et faisant un match, tout premier match amical au nouveau stade.
Le premier match des Girondins de Bordeaux à l'Escure, Oscar Rohr était dans l'équipe de Strasbourg.
Exactement, donc on a quand même quelque part des atomes crochus.
C'est vrai.
Et bon, ce qui s'est passé, pour revenir à ta question, c'était que bon, nous avons eu avec Gigi très bonne relation au Girondin de Bordeaux. Après, il est parti à Marseille, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Ah oui. Il revient en tant qu'entraîneur, comme tu l'as rappelé, avec Didier Kwekou en 88-89. Ouais. Et voilà, donc ça a été une année où les Girondins avaient des problèmes financiers, que Chaban a dit là maintenant il faut faire quelque chose. Malheureusement, Aimé Jacquet est parti le 13 février 89, et je me rappellerai toujours, c'était pour moi quelqu'un qui m'a donné envie de devenir entraîneur aussi. Beaucoup de joueurs d'ailleurs de son équipe sont devenus aussi entraîneurs parce qu'il a donné une si belle image de ce métier d'entraîneur éducateur que ça nous a donné envie de le faire aussi.
Dans toi, tu as exactement aussi suivi cette voie, entraîneur de club et puis aujourd'hui sélectionneur, et notamment avec le Nigeria. Dans ce Nigeria, pour revenir au Girondin de Bordeaux et pour recentrer un peu, il y a Samuel Kalou. Samuel Kalou qui a fait plutôt un très bon début de saison, et pourtant juste avant avec le Nigeria, ça a été compliqué. Non pas parce que c'est le joueur qui avait eu du mal, mais parce qu'il y a eu ce petit malaise avant la Coupe d'Afrique des Nations qui l'a un peu refroidi, si je puis dire, même si c'était un problème de déshydratation. C'est vrai que la CAN a été un peu en demi-teinte pour lui, mais du coup, ça l'a un peu remis sur pied pour attaquer cette saison de Ligue 1.
Il avait très bien commencé au Girondin la saison dernière avec des bons matchs. Il s'est blessé à la sortie de l'hiver, il a fait une rechute à l'arrivée de Paulo Sousa, où il voulait montrer très vite aussi qu'il savait bien jouer au football. Et après cette rechute, ça a été difficile pour lui de se refaire sa place au Girondin. Nous l'avons aidé. Il a eu le kidnapping de sa maman. Ça a été une semaine difficile, hein, au mois de février de cette année. Et on a appelé souvent le Nigeria pendant cette semaine pour essayer de trouver la solution. Il a trouvé la solution, mais ça a été difficile. Malheureusement, au Nigeria, ce genre de choses arrive assez fréquemment. Et, mais il a très, très bien réagi pour sauver sa maman. Il s'est refait mal.
Oui.
Et il a raté la fin de saison avec les Girondins. On l'a reconstruit dans la préparation avec le Nigeria, avec beaucoup d'entraînements spécifiques pour lui. Et la veille du premier match, il nous fait ce collapse. Il tombe. Et voilà, c'était heureusement pas grave, mais tout le monde a eu peur. Et on l'a relancé contre Madagascar, match qu'on a finalement perdu. C'était malheureux pour lui. Mais on a voulu le relancer. On l'a encore fait participer après. Et surtout, on a beaucoup travaillé pour lui permettre de revenir en forme. Avec deux préparateurs physiques que j'ai pu avoir avec le Nigeria. Et je pense qu'il profite maintenant aussi d'un bon encadrement aux Girondins pour pouvoir s'épanouir dans un système un peu différent, 3-4-3, où il doit beaucoup rentrer à l'intérieur, alors que chez nous, il joue carrément sur l'aile.
Sur l'aile.
Oui.
Tu penses qu'il est meilleur ou sur l'aile, justement?
Il est bon aussi dedans, mais moi, je trouve qu'avec sa vitesse dans le système que nous avons, qui n'est pas le même, 4-2-3-1 ou 4-3-3, on a besoin d'ailier. J'ai Simon Moses, j'ai Ahmed Moussa, j'ai Kalou. Le Nigeria a toujours eu de bons... J'ai Henry Onyekuru qui a signé à Monaco maintenant. Nous, on aime bien passer par les côtés parce qu'on a des garçons qui vont vite, mais à Bordeaux, c'est peut-être différent.
S'il n'avait pas eu son malaise, est-ce qu'il aurait été titulaire à la CAN, Samuel Kalou?
Oui, ben il était prévu dans l'équipe titulaire, comme Collins, qui s'est blessé le même jour, la veille de match. On a dû remplacer ces deux garçons au pied levé au dernier moment. Et on a quand même gagné nos deux premiers matchs de la CAN et on était qualifié. Donc Kalou était prévu comme titulaire à la CAN.
Pour parler désormais du club, Garnot, tu as suivi, je suis sûr, l'actualité des Girondins qui ont été vendus il y a quelques mois maintenant d'M6 pour aller vers les investisseurs américains, notamment de GACP. Ton avis sur ce rachat, sur le changement aux Girondins, est-ce que bonne chose, est-ce que tu as encore des doutes, est-ce que, comment tu vois ce rachat des Girondins par les Américains?
Oui, je les ai rencontrés lorsque ils nous ont invités pour le match de Slavia Prague avec l'équipe de 96 qui avait fait la demi-finale de la Coupe d'Europe après le quart de finale contre Milan AC. On a joué deux fois contre le Slavia. Il y avait encore des garçons qui étaient dans le staff et ils ont eu la bonne idée de faire un repas au Hayon avec justement la partie adverse. Et on a pu reparler. Et j'ai trouvé qu'ils étaient sympas. Dag Groza était même agréable. Il m'a demandé, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un parmi ces joueurs qui peuvent nous donner un coup de main? J'ai dit, on est trop vieux maintenant, c'est un peu fini. On a plaisanté.
Donc il y a eu une demande pour être ambassadeur, par exemple, pour toi?
Non, je n'ai pas eu cette demande-là, mais on a eu des échanges. Et puis chaque fois que je veux aller au match, on me donne gentiment une invitation. Et... il faut laisser un petit peu de temps à ces gens-là pour montrer ce qu'ils vont apporter. Mon a priori est plutôt positif parce qu'ils ont des ambitions. Ils ont fait une intersaison là qui va se terminer maintenant avec le recrutement qui va nous montrer, je pense, bientôt quand même une meilleure équipe des Girondins. Je crois que l'ambition est là, la qualité est là. Les gens ont besoin maintenant de résultats, il faut gagner des matchs. À Bordeaux notamment, il y a eu très peu de victoires depuis la fin de la saison dernière. Heureusement qu'on a gagné Marseille.
Oui.
Mais il faut des résultats. Maintenant, tout va être jugé sur les résultats. Et les résultats, le staff sera responsable des résultats. Le staff sera responsable du projet de jeu. Et les joueurs sont en première ligne pour montrer leur qualité.
Alors justement, le staff, parlons-en. Garnot, Paulo Sousa est arrivé, tu en as parlé il y a quelques instants. Paulo Sousa qui a décidé finalement avec son staff de recréer ce qu'on a appelé, on entend un peu dans les grands clubs, le loft. Le loft, ce sont ces joueurs qui sont un peu laissés à part, qu'on ne veut plus voir dans l'effectif. On a notamment du côté des Girondins, Sankaré, on a eu Vada qui désormais est parti à Almeria, Paul Bayes par exemple aussi qui est dans ce loft. Est-ce que toi en tant qu'entraîneur, tu trouves que c'est une bonne chose de se passer de joueurs qui sont en plus aguerris à la Ligue 1, de les laisser comme ça un peu de côté?
Moi j'ai jamais pratiqué le loft, ni en tant que joueur, j'ai jamais aimé ça, mais j'ai joué dans une équipe en Allemagne à Offenbach où il y avait trois joueurs dans un loft. Et ça crée toujours une mauvaise ambiance, forcément, parce que les trois joueurs ont des copains qui jouent, parce qu'ils sont là depuis un moment pour certains, parce qu'ils ont aussi des mérites, parce qu'ils ont aussi un contrat et ils ont aussi à être respectés. Ce n'est pas facile. Maintenant, je comprends aussi que quand il y a beaucoup, beaucoup de joueurs sous contrat, on ne peut pas s'entraîner avec 35 joueurs. Donc, il faudra faire des groupes. Mais il faut éviter de faire des lofts parce que ça crée une mauvaise ambiance. Et sur une année, l'ambiance est primordiale. Vous avez une bonne ambiance dans une équipe, vous avez quand même la possibilité de faire des bons résultats. Vous n'avez pas une bonne ambiance, les résultats seront mauvais.
Si Kalou était par exemple mis dans ce loft, est-ce que tu serais capable d'appeler Paulo Sousa pour lui demander des comptes, pour en savoir plus, ou tu estimes que ce qui se passe dans un club reste dans un club et finalement tant pis pour le joueur qui ne pourra plus être sélectionné?
On a déjà échangé sur le cas de Kalou lorsqu'il était blessé, lorsqu'il a repris l'entraînement, lorsque j'ai mangé avec Kalou et Maja aux Girondins, puisqu'on a Maja, un deuxième Nigérian.
Voilà, il est anglo-nigérian.
Tout à fait, et sélectionnable pour le Nigeria.
Est-ce que tu as commencé déjà à lui parler un petit peu de la sélection nigériane à
Tout à
Maja
fait, tout à fait.
Et quels sont ses retours? Plutôt positifs, plutôt négatifs pour l'instant?
Oui, on a parlé ensemble. Il est plutôt positif, parce qu'il n'a pas joué pour les moins de 20 ans, comme c'était le cas d'Alex Iwobi, qui avait joué pour l'Angleterre à moins de 20 ans, mais qui après n'avait pas été pris, donc qui a changé.
Voilà, parce qu'on peut préciser aux auditeurs qu'aujourd'hui on peut jouer avec les moins de 20 ans d'un pays et être sélectionnable pour un autre avec les seniors entre guillemets.
Et cela jusqu'à l'âge de 23 ans. D'accord. Il y a beaucoup de pays qui ont profité de ça, l'Algérie notamment, où il y a eu des joueurs, de jeunes joueurs qui ont joué pour la France et après ils ont opté pour l'équipe A algérienne. Pourquoi ? Parce qu'en France c'était trop difficile pour venir en équipe A et de faire une Coupe du Monde par exemple. Donc, on a la possibilité avec Maja aussi de faire ça plus facilement.
Il peut faire des matchs amicaux d'ailleurs. Il peut faire les matchs amicaux.
Voilà. Il peut faire les matchs amicaux, mais il peut le faire seulement parce qu'il n'a pas joué pour les moins de 20 ans anglais. Ce qui est le cas pour beaucoup d'autres que nous avons aussi dans notre viseur. Mais pour Maja, ça serait plus facile pour l'avoir. Mais
tu comptes le sélectionner là dans peu de temps?
J'ai beaucoup d'attaquants, ce n'est pas impossible. Là, on va faire un match en Ukraine. Et on m'a dit, maintenant, c'est trop tard pour le visa pour les joueurs qui n'ont pas de passeport européen.
D'accord.
Mais il en a un.
Oui.
Puisqu'il est aussi anglais.
Oui.
Donc, il pourrait éventuellement nous rejoindre.
Donc, tu pourrais peut-être l'appeler pour aller en Ukraine.
C'est possible.
Bon, ben ça serait une exclue pour le point G, qui est votre nouvelle émission, votre nouveau podcast que vous retrouvez sur GoldFM et GirondinForever.com. Gernot, pour terminer ce petit entretien, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut imaginer un jour, un Gernot Rohr, faire partie d'un projet autour des Girondins de Bordeaux, non pas en tant qu'entraîneur, parce qu'on a compris qu'aujourd'hui le poste de sélectionneur était plus adapté à ta vie de famille, etc. Mais est-ce qu'un projet autour d'un Gernot Rohr directeur sportif, Gernot Rohr président peut-être des Girondins, est-ce que ça pourrait t'intéresser à l'avenir?
Oh, j'ai toujours aimé ce club, j'ai passé 21 ans dans ce club, je suis parti en 98, j'étais arrivé en 77 et j'ai vécu toutes les étapes positives mais aussi la rétrogradation, tout le monde est parti mais on est resté pour relever le défi et remonter. On a fait la Coupe d'Europe, on est allé en finale, on a fait plein de choses. Et après, voilà, à un moment donné, il faut partir. Et là, je suis revenu. Pourquoi pas? Moi, j'aimerais beaucoup aider les Girondins. J'ai déjà essayé à travers des conseils. Je leur ai proposé Aubameyang à l'époque, quand je l'avais au Gabon. Ça ne s'est pas fait. Il y avait un dénommé Poco, à un moment donné, qui avait 18 ans. Qui est venu pour rien du tout, Girondins qu'ils ont pu payer, vendre très cher après.
Bon, qui a fait une bêtise aussi.
Qui a fait une bêtise aussi, oui. Il n'était pas très mature, malheureusement. Mais il ne faut pas retenir que ça.
Oui, bien sûr.
Il faut retenir aussi qu'il a fait des bonnes choses. Et bon, on connaît beaucoup, beaucoup de joueurs de qualité, maintenant en Afrique, évidemment. Et pourquoi pas mettre ça au service des Girondins, ça me fera plaisir de les aider.
Merci beaucoup, Garnot, d'avoir été dans cette première émission, le parrain de, du Point G, sur Gold FM, sur girondinforever.com. Merci beaucoup, Garnot.
Bonne
Point
chance
G comme Garnot, d'ailleurs.
Tout à fait. Bonne chance à ton émission et ça va marcher comme tout ce que tu fais, Julien.
Merci beaucoup, Garnot, c'est très gentil.
Analyse, débat, interview, histoire, le Point G, podcast 100% Girondin avec Julien B.
Nous sommes avec Pablo, le défenseur central des Girondins de Bordeaux, international brésilien qui est avec nous. Bonjour Pablo.
Bonjour.
Comment ça va après cette première victoire du côté de Dijon?
Ah, très bien, c'est très bien, c'est très bien. On gagne la confiance, c'est très important, 3 points. Et pour continuer la saison, c'est le plus important, gagner à chaque match.
Est-ce qu'on commençait à douter dans le vestiaire, dans l'effectif, du fait que dans ces premiers matchs, on ne trouverait pas la faille, on n'arrivait pas à prendre ces 3 points?
Oui, c'est dur, c'est dur, c'est vrai que c'est dur. Quand on joue en grande équipe comme Bordeaux, c'est normal ça, cette pression. Mais on fait tout le temps notre travail pour gagner le match. Et quand on ne gagne pas, il y a des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que ça manque? Mais aujourd'hui, on nous sent bien, on gagne la première victoire, ça c'est le plus important pour gagner la confiance dans la saison.
Aujourd'hui, et depuis l'arrivée de Laurent Koscielny, on va en parler, vous êtes donc repassé à 3 défenseurs centraux, vous vous trouvez plutôt sur l'axe gauche, ça vous convient cette position? Vous vous sentez bien dans ce système à trois centraux?
Oui, je joue toute ma carrière à gauche, mais pas avec 3. Mais je pense que pour moi, il n'y a pas de problème parce que je joue à mon côté. Mais je pense que l'équipe elle est bien comme ça pour sortir avec le ballon, pour gagner un peu plus de possède des ballons, pour gagner pour expliquer ça en français, pour la supériorité avec les attaquants. Et pour moi, il n'y a pas de problème.
Aujourd'hui, donc, on a dit, il y a eu l'arrivée de Laurent Koscielny. Cette arrivée de l'ancien joueur d'Arsenal, ça a mené quoi à l'équipe? Une certaine sérénité, le fait que ce soit un joueur quand même qui a été dans une grande équipe. Vous sentez la différence?
Il y a beaucoup de choses pour parler de lui. C'est un joueur très, très sympa et dans le terrain. Tu vois, lui, il est beaucoup tranquille avec le ballon. Il donne la tranquillité.
La tranquillité.
Pour nous, il y a beaucoup d'expérience et ça, c'est le plus important pour passer pour nous, pour être un peu plus calme dans le match. Et c'est sûr que c'est un joueur qui c'est très fort, il y a beaucoup de qualité.
Pour revenir un peu sur vous, comment vous jugez le Pablo qui est arrivé il y a quelques saisons maintenant à Bordeaux et le Pablo d'aujourd'hui avec cet intervalle où vous êtes reparti au Brésil, vous êtes revenu? Vous sentez un nouvel homme, vous avez repris de l'expérience? Vous sentez complètement différent du Pablo
2015, je vous parle de 2015
Oui, de votre arrivée à aujourd'hui, vous vous sentez changé?
Ah, c'est sûr que c'est l'autre joueur. J'ai pris beaucoup de choses ici. Et après, quand je pars au Brésil aussi pour jouer un an en Corinthians, je fais beaucoup de choses bien. Et il y a un coach qui me donnait beaucoup d'expérience pour arriver ici bien. Je me sens beaucoup bien aujourd'hui. J'ai beaucoup de trucs différents pour faire dans mon match. Et ça fait déjà 3 ans, 4 ans. Et je suis différent aujourd'hui, c'est sûr.
La Seleção, c'est toujours un objectif pour Pablo?
Toujours, toujours, tout le temps. C'est mon objectif. Je pense que c'est le top de la carrière. Et quand tu arrives là, c'est pour continuer le travail. Et je vais travailler tout le temps pour ça et je pense que si l'équipe elle est bien, elle peut m'aider et je peux aider l'équipe aussi. Donc je travaille pour ça tout le temps pour y aller encore.
Et Bordeaux, c'est un endroit parfait pour réussir à atteindre cet objectif d'avoir aussi la Seleção?
Aussi. C'est une grande équipe et si Bordeaux elle est bien et moi je suis bien, il n'y a pas de problème, je pense que je peux arriver normalement.
Et justement, vous vous sentez bien là physiquement en ce moment? Ça va
très
bien?
Très bien, très très bien, c'est une bonne question. Je me sens très bien, je me sens concentré pour faire le mieux et je travaille tout le temps pour faire mon jeu.
donc vous voulez atteindre vos objectifs. Est-ce que cet objectif, malheureusement la question je dois la poser, on n'est pas très loin de la fin du mercato, est-ce que cet objectif passe peut-être par un départ, ou est-ce que pour vous c'est ça, vous allez rester sur Bordeaux ou vous ne savez pas tout simplement?
Non, je pense tout le temps à Bordeaux, j'ai des contrats à Bordeaux et si je parle autre chose c'est pas normal. Et j'ai du contrat, ma concentration c'est juste à Bordeaux, et si ça change alguma chose, c'est le foot. Mais maintenant, je suis concentré à faire le meilleur dans le Bordeaux.
L'objectif, la Seleção, on l'a dit, le départ, vous n'êtes pas encore concentré là-dessus. Est-ce que la vie bordelaise, ça compte justement? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes fait avec votre famille aussi à la vie bordelaise. Ça compte aussi, c'est un plus ça pour vous dans votre réflexion, si une réflexion vous menez.
Ah, oui, oui,
vous
oui.
Vous sentez bien ici dans... Hors qu'au Hayan.
c'est une bonne question. C'est, pour moi et pour ma famille, c'est un peu différent de ma ville. Mm-hmm. Ça, c'est sûr. Et l'adaptation, elle est encore un peu difficile. Mm-hmm. Mais ça commence à changer. Et je me sens un peu plus mieux, ma famille aussi.
Ma famille aussi. Mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est différent. Totalement différent.
Pablo, un petit mot sur Paulo Sousa, votre entraîneur qui est arrivé. Les entraînements, la façon de fonctionner, elle a changé. Vous en avez connu pas mal des entraîneurs. Comment vous jugez Paulo Sousa sur sa façon de mener cet effectif?
C'est un coach qui demande beaucoup de nous pour donner le plus qu'il nous a dedans pour donner pour l'équipe. Mm-hmm. Et il demande la concentration. C'est un coach qui... Comment je peux expliquer ça en français? allez. C'est un coach qui...
Demande la combativité.
Oui, il fait tout pour nous donner le maximum. Mm-hmm. Le maximum qu'il y a de nous. Mm-hmm. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Et la concentration, tout le temps, pour faire le mieux dans l'entraînement, pour faire dans le match.
Dernière question, Lyon. Ça sera samedi. C'est quand même un gros test. C'est une équipe... qui n'a pas encore perdu en Ligue 1. Comment aborder ce match face à cette grosse équipe de Lyon?
On va jouer notre jeu. C'est vrai que c'est un match très très difficile. Mais nous sommes Bordeaux, une grande équipe aussi. On va faire notre jeu pour faire un gros match, grand match. Parce qu'on peut gagner aussi.
On y va pour gagner.
On va pour gagner tout le temps. À chaque match, on va pour gagner.
Merci Pablo pour cette interview.
De rien,
bientôt.
Avec plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Retrouvez chaque semaine votre podcast 100% Girondin sur goldfm.fr et girondinforever.com.